5. Enfant que vous êtes. À peine vous êtes né et déjà vous êtes pressé de vivre. Car il faut vous le dire, vous n'avez pas encore vécu, Stenio. Je vous définirai la vie en deux mots, mais plus tard. Pourquoi donc tant vous hâter? Craignez-vous de ne pas arriver à ce but maudit où nous échouons tous? Vous viendrez vous y briser comme les autres, Stenio. Prenez donc votre temps, faites l'école buissonnière et franchissez le plus tard que vous pourrez le seuil de l'école où l'on apprend la vie. Heureux enfant qui demande où est le bonheur, comment il est fait, s'il l'a goûté déjà, s'il est appelé à le goûter un jour. Ô profonde et précieuse ignorance! Je ne te répondrai pas, Stenio. Ne crains rien. Je ne te flétrirai pas au point de te dire une seule des choses que tu veux savoir. Si j'aime, si je puis aimer, si je te donnerai du bonheur, si je suis bonne ou perverse, si tu seras fait grand par mon amour ou anéanti par mon indifférence, tout cela, vois-tu, c'est une science téméraire que Dieu refuse à ton âge et qu'il me défend de te donner. Attends. Je te bénis, jeune poète. Dors en paix. Demain viendra, beau comme les autres jours de ta jeunesse, paré du plus grand bienfait de la Providence, le voile qui cache l'avenir. 6. Voilà comme vous répondez toujours. Eh bien, votre silence me fait pressentir de telles douleurs que je suis réduit à vous remercier de votre silence. Pourtant, cet état d'ignorance que vous croyez si doux, il est affreux, Lélia. Vous le traitez avec une dédaigneuse légèreté, c'est que vous ne le connaissez pas. Votre enfance a pu s'écouler comme la mienne. Mais la première passion qui s'alluma dans votre sein n'y fut pas en lutte, j'imagine, avec les angoisses qui sont en moi. Sans doute, vous fûtes aimé avant d'aimer vous-même. Votre cœur, ce trésor que j'implorerais encore à genoux si j'étais roi de la terre, votre cœur fut ardemment appelé par un autre cœur. Vous ne connûtes pas les tourments de la jalousie et de la crainte. L'amour vous attendait, le bonheur s'élançait vers vous, et il vous a suffi de consentir à être heureuse, à être aimée. Non, vous ne savez pas ce que je souffre. Sans cela, vous en auriez pitié, car enfin vous êtes bonne. Vos actions le prouvent, en dépit de vos paroles qui le nient. Je vous ai vu adoucir de vulgaires souffrances. Je vous ai vu pratiquer la charité de l'Évangile avec votre méchant sourire sur les lèvres, nourrir et vêtir celui qui était nu et affamé, tout en affichant un odieux scepticisme. Vous êtes bonne, d'une bonté native, involontaire, et que la froide réflexion ne peut pas vous ôter. Si vous saviez comme vous me rendez malheureux, vous auriez compassion de moi. Vous me diriez s'il faut vivre ou mourir. Vous me donneriez tout de suite le bonheur qui enivre ou la raison qui console. 7. Quel est donc cet homme pâle que je vois maintenant apparaître comme une vision sinistre dans tous les lieux où vous êtes? Que vous veut-il? D'où vous connaît-il? Où vous a-t-il vu? D'où vient que le premier jour qu'il parut ici, il traversa la foule pour vous regarder et qu'aussitôt vous échangeâtes avec lui un triste sourire? Cet homme m'inquiète et m'effraie. Quand il m'approche, j'ai froid. Si son vêtement n'effleure le mien, j'éprouve comme une commotion électrique. C'est, dites-vous, un grand poète qui ne se livre point au monde, mais qui est au-dessus de Byron. Son vaste front révèle en effet le génie, mais je n'y trouve pas cette pureté céleste, ce rayon d'enthousiasme qui caractérise le poète. Cet homme est morne et désolant comme le giaour, comme l'ara, comme vous, Lélia, quand vous souffrez. Je n'aime point à le voir sans cesse à vos côtés, absorbant votre attention, accaparant, pour ainsi dire, tout ce que vous réserviez de bienveillance pour la société et d'intérêt pour les choses humaines. Je sais que je n'ai pas le droit d'être jaloux. Aussi, ce que je souffre parfois, je ne vous le dirai pas. Mais je m'afflige, cela m'est permis, de vous voir entouré de cette lugubre influence. Vous, déjà si triste, si découragé, vous qu'il ne faudrait entretenir que d'espoir et de douces promesses, vous voilà sous le contact d'une existence flétrie et désolée, car cet homme est desséché par le souffle des passions. Aucune fraîcheur de jeunesse ne colore plus ses traits pétrifiés, sa bouche ne sait plus sourire, son teint ne s'anime jamais. Il parle, il marche, il agit par habitude, par souvenir. Mais le principe de la vie est depuis longtemps éteint dans sa poitrine. Je suis sûr de cela, madame. J'ai beaucoup observé cet homme. J'ai percé le mystère dont il s'enveloppe. S'il vous dit qu'il vous aime, il ment. Il ne peut plus aimer. Mais celui qui ne sent rien, ne peut-il rien inspirer ? C'est une terrible question que je débats depuis longtemps, depuis que je vis, depuis que je vous aime. Je ne puis me décider à croire que tant d'amour et de poésie émanent de vous sans que votre âme en recèle le foyer. Cet homme jette tant de froid par tous les pores. Il imprime à tout ce qu'il approche une telle répulsion que son exemple me console et m'encourage. Si vous aviez le cœur mort comme lui, je ne vous aimerais pas. J'aurais horreur de vous, comme j'ai horreur de lui. Et cependant, oh, dans quel inextricable dédale ma raison se débat. Vous ne partagez pas l'horreur qu'il m'inspire. Vous semblez au contraire attiré vers lui par une invincible sympathie. Il y a des instants où, le voyant passer avec vous au milieu de nos fêtes, vous deux, si pâles, si graves, si distraits au milieu de la danse qui tournoie, des femmes qui rient et des fleurs qui volent, il me semble que seul parmi nous tous, vous pouvez vous comprendre. Il me semble qu'une douloureuse ressemblance s'établit entre vos sensations et même entre les traits de votre visage. Est-ce le sceau du malheur qui imprime à vos sombres fronts cet air de famille? Ou cet étranger, Lélia, serait-il vraiment votre frère? Tout dans votre existence est si mystérieux que je suis prêt à toutes les suppositions. Oui, il y a des jours où je me persuade que vous êtes sa sœur. Eh bien, je veux le dire, pour que vous compreniez que ma jalousie n'est ni étroite ni puérile. Je ne souffre pas moins avec cette idée. Je ne suis pas moins blessé de la confiance que vous lui montrez et de l'intimité qui règne entre lui et vous, vous si froide, si méfiante, si réservée parfois, et qui ne l'êtes jamais pour lui. S'il est votre frère, Lélia, quel droit a-t-il de plus que moi sur vous? Croyez-vous que je vous aime moins purement que lui? Croyez-vous que je pourrais vous aimer avec plus de tendresse, de sollicitude et de respect si vous étiez ma sœur? Oh, que ne l'êtes-vous! Vous n'auriez de moi nulle défiance. Vous ne méconnaîtriez pas à chaque instant le sentiment chaste et profond que vous inspirez. N'aime-t-on pas sa sœur avec passion quand on a l'âme passionnée et une sœur comme vous, Lélia? Les liens du sang qui ont tant de poids sur les natures vulgaires, que sont-ils au prix de ceux que nous forge le ciel dans le trésor de ses mystérieuses sympathies? Non, s'il est votre frère, il ne vous aime pas mieux que moi, et vous ne lui devez pas plus de confiance qu'à moi. Qu'il est heureux, le maudit, si vous vous plaisez à lui dire vos souffrances, et s'il a le pouvoir de les adoucir. Hélas, vous ne m'accordez pas seulement le droit de les partager. Je suis donc bien peu de chose. Mon amour a donc bien peu de prix. Je suis donc un enfant bien faible et bien inutile encore, puisque vous avez peur de me confier un peu de votre fardeau. Oh, je suis malheureux, Lélia, car vous l'êtes, vous, et vous n'avez jamais versé une larme dans mon sein. Il y a des jours où vous vous efforcez d'être gai avec moi, comme si vous aviez peur de m'être à charge en vous livrant à votre humeur. Ah, c'est une délicatesse bien insultante, Lélia, et qui m'a fait souvent bien du mal. Avec lui, vous n'êtes jamais gai. Voyez si j'ai sujet d'être jaloux. 8. J'ai montré votre lettre à l'homme qu'on nomme ici Trainmore et dont moi seul connais le vrai nom. Il a pris tant d'intérêt à votre souffrance, et c'est un homme dont le cœur est si compatissant, ce cœur que vous croyez mort, qu'il m'a autorisé à vous confier son secret. Vous allez voir que l'on ne vous traite pas comme un enfant, car ce secret est le plus grand qu'un homme puisse confier à un autre homme. Et d'abord, sachez la cause de l'intérêt que j'éprouve pour Trainmore. C'est que cet homme est le plus malheureux que j'ai encore rencontré. C'est que, pour lui, il n'est point resté au fond du calice une goutte de lie qu'il n'ait fallu épuiser. C'est qu'il a sur vous une immense, une incontestable supériorité, celle du malheur. Savez-vous ce que c'est que le malheur, jeune homme ? Vous entrez à peine dans la vie. Vous en supportez les premières agitations. Vos passions se soulèvent, accélèrent les mouvements de votre sang, troublent la paix de votre sommeil, éveillent en vous des sensations nouvelles, des inquiétudes convulsives, des tourments nerveux, et vous appelez cela souffrir. Vous croyez avoir reçu le grand, le terrible, le solennel baptême du malheur. Vous souffrez, il est vrai, mais quelle noble et précieuse souffrance que celle d'aimer! De combien de poésie n'est-elle pas la source? Quelle est chaleureuse, quelle est productive la souffrance qu'on peut dire et dont on peut être plein! Mais celle qu'il faut renfermer sous peine d'infamie et de malédiction, celle qu'il faut cacher au fond de ses entrailles comme un amer trésor, celle qui ne vous brûle pas mais qui vous glace, qui n'a point de larmes, point de prières, point de rêveries, celle qui toujours veille, froide, pâle, paralytique au fond du cœur. Celle que Trainmore a épuisée, c'est celle-là dont il pourra se vanter devant Dieu au jour de la justice. Car devant les hommes, il faut s'en cacher. Écoutez l'histoire de Trainmore. Il est plus largement, plus richement organisé qu'aucun de vous. Pour lui, la vie commune était trop petite. Aux âmes comme la sienne, l'univers n'offre pas assez d'aliments. Comme vous, cependant, il a été jeune, candide, amoureux. Comme vous, il a eu 20 ans. Seulement, comme il vivait plus vite, il les a eus à 16. L'amour épuisé, il a été dévoré par une passion bien autrement énergique, bien plus féconde en drames terribles, bien plus intense, bien plus enivrante, bien plus héroïque dans les actes qui concourent à son but, le jeu. Car il faut le dire, hélas, si le but est vil en apparence, l'ardeur est puissante, l'audace est sublime, les sacrifices sont aveugles et sans bornes. Jamais les femmes n'en inspirent de pareil. L'or est une puissance bien supérieure à la leur, en force, en courage, en dévouement, en persévérance. Au prix du joueur, l'amant n'est qu'un faible enfant dont les efforts sont dignes de pitié. Combien d'hommes avez-vous vu sacrifier à leur maîtresse ce bien inestimable, cette nécessité sans prix, cette condition d'existence sans laquelle il n'y a pas d'existence supportable, l'honneur? Je n'en connais guère dont le dévouement aille plus loin que le sacrifice de leur vie. Tous les jours, le joueur immole son honneur et supporte la vie. Le joueur est âpre, il est stoïque, il triomphe froidement, Il succombe froidement. Il passe en quelques heures des derniers rangs de la société au premier. Dans quelques heures, il redescend au point d'où il était parti, et cela sans changer d'attitude ni de visage. Dans quelques heures, sans quitter la place où son démon l'enchaîne, il parcourt toutes les vicissitudes de la vie. Il passe par toutes les chances de fortune qui représentent les différentes conditions sociales, tour à tour roi et mendiant. Il gravit d'un seul bond l'échelle immense, toujours calme, toujours maître de lui, toujours soutenu par sa robuste ambition, toujours excité par l'âcre soif qui le dévore. Que sera-t-il tout à l'heure? Prince ou esclave? Comment sortira-t-il de cet antre? Nu ou courbé sous le poids de l'or? Qu'importe, il y reviendra demain refaire sa fortune, la perdre ou la tripler. Ce qu'il y a d'impossible pour lui, c'est le repos. Il est comme l'oiseau des tempêtes qui ne peut vivre sans les flots agités et les vents en fureur. On l'accuse d'aimer l'or. Il l'aime si peu qu'il le jette à pleine main. Ses dons de l'enfer ne sauraient lui profiter ni l'assouvir. À peine riche, il lui tarde d'être ruiné afin de goûter encore cette nerveuse et terrible émotion sans laquelle la vie lui est insipide. Qu'est-ce donc que l'or à ses yeux? Moins par lui-même que des grains de sable aux vôtres. Mais l'or lui est un emblème des biens et des maux qu'il vient chercher et braver. L'or, c'est son jouet, c'est son ennemi, c'est son dieu, c'est son rêve, c'est son démon, c'est sa maîtresse, c'est sa poésie. C'est l'ombre qu'il poursuit, qu'il attaque, qu'il étreint, puis qu'il laisse échapper pour avoir le plaisir de recommencer la lutte et de se prendre encore une fois corps à corps avec le destin. Allez, c'est beau cela. C'est absurde, il faut le condamner, parce que l'énergie employée ainsi est sans profit pour la société. Parce que l'homme qui dirige ses forces vers un pareil but vole à ses semblables tout le bien qu'il aurait pu leur faire avec moins d'égoïsme. Mais en le condamnant, ne le méprisez pas, petites organisations qui n'êtes capables ni de bien ni de mal. Ne mesurez qu'avec effroi le colosse de volonté qui lutte ainsi sur une mer fougueuse pour le seul plaisir d'exercer sa vigueur et de la jeter en dehors de lui. Son égoïsme le pousse au milieu des fatigues et des dangers comme le vôtre vous enchaîne à de patientes et laborieuses professions. Combien comptez-vous dans le monde d'hommes qui travaillent pour la patrie sans songer à eux-mêmes? Lui, il s'isole franchement, il se met à part, il dispose de son avenir, de son présent, de son repos, de son honneur. Il se condamne à la souffrance, à la fatigue. Déplorez son erreur, mais ne vous comparez pas à lui dans le secret de votre orgueil pour vous glorifier à ses dépens. Que son fatal exemple serve seulement à vous consoler de votre inoffensive nullité. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Votre âge est celui de l'intolérance, et vous seriez trop violemment étourdi si je vous disais en un seul jour tout le secret de Trainmore. Je veux laisser cette partie de mon récit faire son impression. Demain, je vous dirai le reste.